Vous permettez, je cherche mes accessoires. Hein.
Celui-là.
Alors celui-là, on va le mettre bien devant. Voilà. Alors, moi, je suis complètement enthousiaste parce que voilà, j'ai un message cadeau. Enfin, je sais pas, il y a des messages, bon, c'est peut-être, d'autres, certains sont plus faciles que d'autres, mais alors là, c'était, waouh, j'étais enthousiaste. Alors, j'espère bien que vous serez, enfin, voilà, là, je suis enthousiaste, normalement, il y a des chances que vous suiviez. Par contre, si j'arrive en reculons, c'est sûr que là, ça va être dur. Mais là, non, là. Et puis, en plus, confirmation, au cas où j'aurais eu besoin de confirmation, Denis, je lui ai demandé, il ne savait rien de la thématique. Et puis, je suis bluffée. Enfin, tu vas voir, parce que je t'ai rien dit non plus. Il m'a demandé pourquoi, non. Tu ne sauras pas. Tout de suite. Pas tout de suite, en tout cas. Et vous savez aussi ce qui arrive quand vous croyez connaître une histoire, ou croyez connaître quelque chose, et puis le Saint-Esprit arrive, et puis, boum, il vous met une révélation, une illumination, je sais pas, et après vous dites, oh, wow, c'est trop bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de choses. Alors, je sentais qu'il y avait quelque chose qui mijotait dans mon cœur, là, qui mijotait, et puis hier, ça a été le téléchargement final. J'ai passé des heures, j'étais... Enthousiaste. Alors bon, Seigneur, tu es avec nous, là. Tu es avec nous. Attends, écoutez bien. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous. Et puis, tu vas nous conduire. Et vraiment, ton Saint-Esprit, il est présent. Tu es là. Tu es tellement, tellement, tellement là. Tu es un Dieu qui est là. Et que chacun perçoive par l'Esprit combien tu es là, combien tu es un Dieu proche, combien tu es un Dieu vivant, très, très, très vivant. Tu es la vie même. Et que et ben, ça nous propulse là où tu veux nous emmener. Voilà, dans aujourd'hui, les jours à venir, et dans ces temps extraordinaires de l'année 2017, 5777, année juive, à quelques heures, quelques jours de Shavuot. Amen. Oui, on est à semaine prochaine, mardi, mercredi, hein, Thierry. C'est mardi soir ou mercredi soir, Shavuot. Hein, voilà, et puis nous, Pentecôte, dimanche prochain. Donc, des temps assez incroyables. Alors, mon accessoire. Hop. Ouh. Là. Un phare. Alors, un phare, je le pose là. C'est pour les visuels. Hein. Toujours penser aux visuels. Parce que les auditifs, c'est très bien, mais on oublie parfois les visuels. Là. Vous l'aurez tout le temps du message, comme ça, visuellement, ça rentre. Alors, le phare. C'est vraiment un petit modèle réduit. Et en plus, très, très, très incomplet, parce que normalement, un phare, c'est pas posé comme ça, mobile. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Un phare, c'est pas mobile du tout. Un phare, normalement, alors comme c'était pas terrible, mon image de phare, c'est juste parce que, voilà, c'est... Hein, donc, j'ai apporté d'autres phares. Hop. Alors, il y a des Bretons parmi vous, Païssa Tao. Voilà, donc, c'est des phares. Hop. Alors, les phares. Tout le monde voit les phares? Alors là, c'est phare, mer relativement tranquille. Et quelque chose de très intéressant, ce qui n'apparaît pas là-dessus, c'est que ce phare, vous voyez, le soubassement, il fait corps avec quoi? Avec le rocher. Il fait corps. On ne distingue plus la base du phare du roc. Il fait complètement corps. Alors, bon, vous remplacez cette petite chose par le phare là. Il fait corps, complètement corps. La mer relativement tranquille. C'est peut-être actuellement. Hein. On continue. Vue d'en haut, mer un peu plus tumultueuse quand même. Hein. Le phare, toujours inamovible sur son rocher. Hein. Tout le monde voit? C'est bon? Voilà. Sinon, je peux faire passer après. Hein. Après, il y a quand même des vagues assez... qui déferlent sur le phare. Hein. Le phare, il tient toujours bon. Il est fait pour, d'ailleurs. Les vagues, quand même, ça y va fort. Hein. Mais elle ne le submerge pas, il est toujours solide sur son roc, qu'on ne voit pas d'ailleurs, tellement il est... Mais il est toujours là. Hop, là, après... Ah oui, alors là... Alors là, là c'est tumultueux. Hein. Il y a des vagues plus hautes que le phare. Mais le phare, il résiste quand même. Hein. Même, elles sont plus hautes que le phare, il faut le faire quand même. Hein. C'est, une phare, c'est un phare intéressant, un phare maison. C'est un phare en forme de maison, il est sur un énorme rocher. Je l'aime bien celui-là parce que c'est une maison, vous voyez ? C'est nous, là, la maison. Collectif, une maison, sur un énorme rocher, et les vagues plus hautes que le phare ne détruisent pas le phare. Hein, quand même. Et puis après... Oui, là, c'est la tempête totale, la tempête absolue. Là, vous voyez, le rocher est encore plus énorme. Un soubassement formidable. Et le phare toujours résiste. Hein. Et puis, quand même, je finis quand même positivement. L'Alliance. Pas mal, hein ? L'Alliance. Tout est beau, la mer est sereine, plate. C'est l'Alliance. Voilà. Je fais passer peut-être mes images de phare, comme ça, vous... C'est pour les visuels, mais les auditifs peuvent profiter aussi. Alors, par contre, si vous remarquez ces images, il y a quand même quelque chose d'essentiel qui manque dans ma série. Essentiel. Qu'est-ce qui manque ? Oui ? Bah oui. Bah oui. Un phare, normalement, c'est utile la nuit, non ? Vous êtes d'accord ? Ou quand le ciel est très très sombre et qu'on ne voit plus grand-chose, ou quand il y a de la brume, je ne sais pas moi. Un phare, le jour, quand tout, on le voit très très bien, ce n'est pas trop utile. D'ailleurs, il n'est pas allumé, là. Voilà, tous les phares ne sont pas allumés, là, vous remarquez. Hein ? Le phare, c'est la nuit que ça marche. C'est la nuit qui sert. Alors, pourquoi je ne vous montre que des phares de jour ? Bah, parce que aujourd'hui, on ne va pas s'occuper de la lumière, désolé, qui est quand même la finalité du phare. On va s'occuper des fondements du phare. Et je crois que c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire. Franchement, alors, peut-être que par rapport à ce qui nous attend, moi je trouve que ce n'est pas encore trop tumultueux. Là, ça nous montre un peu ce qui risque d'arriver, là. Oui, on n'y est pas encore, et pour l'instant, ce n'est pas trop, trop tumultueux. Je parle au niveau collectif. Hein. Après, chacun peut avoir des petites tempêtes personnelles, mais bon, globalement, au niveau du pays, ce n'est pas trop encore la tempête. Il y a pire, hein. Il y a des pays qui sont vraiment dans la tempête, type Syrie, vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est encore tranquille. Et le Seigneur, je crois vraiment, vraiment, que dans ce temps où on est, il est en train de passer, je pense que ça doit exister en Bretagne, ça, ou sur les côtes, un vérificateur des fondements du phare, un vérificateur de la construction du phare. Il voit, est-ce que tout est bien basé ? Voyons, voyons voir. Le phare de Huguette, qu'est-ce qu'il est bien placé ? Est-ce que tout va bien ? Il n'y a pas de petite fissure ? Voyons voir où ça... Et il est en train de passer à une sorte de scanner des phares que nous sommes appelés à être, avant qu'il y ait des grosses tempêtes, avant que la nuit soit très, très, très noire et ancre. Vous voyez ce que je veux dire ? Où on en est ? Fondements. Les fondements. Alors, Hébreux 6 nous dit les fondements. Alors, je vais te dire tous, sauf celui que je vais traiter aujourd'hui. Les fondements, c'est la repentance aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement dernier, et il manque quoi dans la série ? Allez, ceux qui ne connaissent par cœur Hébreux 6, quelque chose. Il manque quoi là dans toute cette série ? C'est les fondements. Et après, Paul nous dit gentiment, moi je vais passer à la suite. Mais dans ces fondements, lequel j'ai oublié, énorme, 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 énorme. Non, personne ne sait ? Hébreux, bon, vous avez le droit de regarder vos Bibles. Allez, Hébreux 6. Sans poser à nouveau le fondement de la repentance aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement dernier. Non, 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 Hébreux 6, je vais vérifier, hein, c'est dedans. La série, c'est quoi ? La foi en Dieu. C'est la foi. Alors vous me dites, la foi, on connaît par cœur, enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose de connu, la foi. Je ne sais pas, c'est basique, la foi. Oui, c'est basique, justement, c'est basique. Basique. Alors, je vais, là, quelque chose d'extraordinaire. J'ai trouvé dans la Bible quelqu'un qui était au niveau, dans l'école de la foi, dans les classes de la foi, il était niveau cancre. C'est-à-dire, même pas le niveau nul, le niveau négatif, moins, moins, moins. Nul. Le cancre. Le cancre de la foi, et comment le Seigneur arrive à mener un cancre de la foi au niveau excellence. Ça vous intéresse de savoir ça ? Quand même, parce que, bon, nous, on n'est pas des cancres de la foi. Non ? Enfin, et s'il y a par nous, il y a quelqu'un qui se sent un cancre de la foi, il y a de l'espérance pour lui, parce que là, c'est vraiment un cancre par lequel, auquel le Seigneur s'intéresse, et non seulement s'intéresse, mais l'amène au top niveau. Il faut le faire quand même. Hein. Alors, de qui parlais-je ? Le cancre de la foi dans la Bible. Alors, j'ai entendu le nom. Il y a... Non, c'est pas Moïse, c'est l'autre. Qui c'est qui a dit ça? Marguerite a dit quelque chose? J'ai entendu le mot en plus, plus fort. J'ai entendu le nom parmi vous, là. Gédéon, Christine, très bien vu. Alors, s'il te plaît, on va prendre Gédéon, parce que là, dans mon téléchargement, j'ai revu Gédéon. Alors, je croyais connaître à fond Gédéon, parce que Gédéon, j'ai même fait un sketch avec les élèves à l'école Daniel, je connaissais connaître. Et puis hier, j'ai une sorte de téléchargement de Gédéon. Alors, faut que je vous dise ça. Gédéon, juge 6, verset 11. Ça marche? Donc, juge 6, verset 11. Bon, presque tout le monde connaît l'histoire de Gédéon, en gros, bon, peut-être pas les tout jeunes dans la foi, ils ont le droit de ne pas connaître Gédéon. C'est quelqu'un de très... Enfin, on se reconnaît quand même. Gédéon, environnement... oh là là. Alors, voilà, justice. Avant, je vous résume rapidement. Situation catastrophique du pays. Israël avait fait des tas de bêtises, type France, vous voyez, plein de bêtises. Et puis, plein de Madianites, qui les ennemis, là, qui commencent à persécuter sérieusement Israël, à voler, à détruire, enfin voilà, la catastrophe. Côté familial, vraiment pas terrible non plus. On verra après, mais la famille de Gédéon, c'était du syncrétisme, les amis, du syncrétisme. On prend tous les dieux du coin et on fait une sorte de bouillie infâme. Et voilà, ça, c'était la famille. Vous voyez, donc vraiment... Et ce qui est fort, c'est d'abord, il y a quand même un prophète qui a été envoyé par Dieu, parce que les enfants d'Israël ont crié... Seigneur, au secours. Un prophète est arrivé pour commencer à leur expliquer que peut-être ils avaient un peu déraillé, quoi. Hein, que peut-être il y avait besoin de se repentir. Voilà. Et puis, on ne sait pas le résultat de l'action prophétique, mais en tout cas, toujours est-il qu'on a notre Gédéon. Alors, il fait quelque chose de vraiment. Gédéon, battre du blé au pressoir, il n'y a pas idée, quoi, même. Hein, franchement, pas très, très logique tout ça. Et alors, on a l'ange de l'Éternel qui vient s'asseoir. L'ange de l'Éternel. Alors, Marguerite, tu me dis si je parle trop vite. Hein, c'est... Comment? Ah bon, ah oui. Ça va. L'ange de l'Éternel vient s'asseoir. Ça, c'est reposant. Vient s'asseoir. On est en plein Madianite, situation terrible. L'ange de l'Éternel, qui est-ce? Non, désolé, ce n'est pas un ange. Contrairement à ce qui est écrit, ce n'est pas un ange. L'ange, ce n'est pas un ange. C'est apparaît juste après, en fait, c'est l'Éternel tout court. Et l'Éternel, quand il se manifeste sous forme humaine, c'est qui?
Jésus.
C'est Jésus. Donc, à la place de l'ange de l'Éternel, vous avez le droit de mettre Jésus. Sous une forme à laquelle peut-être on n'est pas très habitué. Il vient s'asseoir, tranquille. J'insiste sur le mot tranquille, parce qu'après on verra vraiment tranquille. Il vient s'asseoir. Et puis Joas, donc Joas c'est un nom hébreu, hein, ça veut dire l'Éternel a donné ou l'Éternel donne. Hein. Voilà, donc propriété de Joas. Et Gédéon battait le blé dans le pressoir, cherchait la logique, battait le blé dans le pressoir à raisin, pour le cacher des Madianites. Et déjà, on voit quelque chose de très... Moi, ce qui est touchant, c'est la simplicité, la proximité de Jésus. Il arrive, il s'approche et il s'assoit. Dites-vous bien qu'il fait la même chose avec chacun de nous. Hein. Il aime beaucoup s'asseoir vers nous. Simple. Et puis, comment il se révèle? Ça, c'est extraordinaire. L'Éternel est avec toi. Et là, il faut vraiment que nous, ça rentre là-dedans. Dieu est avec nous. Romains 8, il est avec nous. Et nous, la bande de Français, pour qu'on se rappelle vraiment, vraiment, vraiment que Dieu est avec nous, il a permis souverainement que notre président ait ce nom. Dieu est avec nous, au cas où on oublierait. C'est fort quand même, hein. C'est notre premier président avec un nom aussi hébraïque que ça. Dieu est avec nous, Monsieur Macron, Emmanuel, Dieu est avec nous. Comme ça, à chaque fois que vous priez pour lui, et comme vous êtes obligés, nous sommes obligés de prier pour lui, Seigneur, bénis Emmanuel Macron, oui, tu es avec nous, Seigneur. Bon, donc, Dieu est avec nous. Et après, deuxième chose, identité, vaillant guerrier. Il donne l'identité, vous voyez? Il révèle qui il est foncièrement avec nous. Et qu'on arrête, qu'on déracine individuellement, collectivement, ce prototype du Dieu qu'est-ce que t'as fait de pas bien aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Le Dieu juge, le Dieu inquisiteur, le Dieu ras-le-bol, on n'en a un peu plus de ce Dieu-là. C'est un faux Dieu, c'est une fausse image, cette idole tombe dans nos mentalités plus ou moins religieuses, culturelles et tout, qu'on a traîné dans tous les siècles de l'histoire de France. Suffit, Dieu est avec nous, d'abord. Vaillant guerrier, culture de l'honneur, valorisation. Il dit ce qui n'est pas encore. Vous voyez ? Il appelle ce qui n'est pas encore. Dieu est rempli de foi, les amis, rempli de foi. C'est un trouillard fini, vaillant guerrier. Voilà. Ça nous parle à nous, les enseignants, ou les parents, pour dire ce que nos enfants sont dans leur destinée éternelle. Vaillant guerrier. Alors, oui, c'est de la culture de l'honneur. Et pendant, quand même, dans la littérature française, pour moi, l'exemple type de ça, c'est Jean Valjean, Monseigneur Myriel, vous savez, l'évêque, qui dit, Jean Valjean, toi, tu es un honnête homme, en gros. Il lui dit, tu es un honnête homme appelé à faire du bien. Alors que tu es un bagnard qui pensait qu'à le tuer, à commettre un meurtre sur l'évêque, l'évêque lui donne une parole de Dieu, quoi, hein. Et puis, vous connaissez l'histoire de Jean Valjean. Hein. C'est la même chose, si vous voulez, version littérature française. C'est extraordinaire. Donc, Gédéon, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il est impacté par cette annonce forte ? Réponse nulle, triple zéro. Moi, je mettrais en prof zéro, souligné zéro en rouge. Alors, pourquoi c'est triple zéro ? j'ai noté pourquoi c'est triple zéro, parce que franchement c'était nul de nul de nul. Il est enfermé en fait dans ce qu'il croit être de lui. Il est complètement enfermé, le gars. J'ai tout écrit. Très mauvaise image de lui-même. Comportement de survie qui se manifeste parce qu'il bat le blé dans le pressoir. Donc vraiment un comportement de survie illogique. Ouais. Regret du passé. Pourquoi là, avant ? Le doute, plein de questions. Négativité. Aucune remise en question quand même par rapport au péché de son peuple, ce qui a conduit relatif à une sorte de silence de Dieu. C'est quand même le péché de ce peuple. Non, on ne se remet pas en question. Conclusion de Gédéon. Dieu est absent, Dieu nous abandonne, donc niveau de foi négatif. C'est triple zéro, c'est moins que zéro. Il n'y a aucune connaissance de Dieu, aucune révélation, rien. Aucune compréhension, aucun discernement qu'est-ce qui les a amenés là, les Israélites, tout ce qu'ils ont fait. Aucune compréhension de rien. Enfin, vraiment, l'élève le plus nul qu'on connaisse dans l'école de la foi, le plus nul. Est-ce que nous, franchement, on aurait misé sur un personnage pareil si on avait été Dieu ? Heureusement pour nous qu'on n'est pas Dieu. Alors non, c'était trop nul. La seule petite chose, la vague petite chose positive, en cherchant bien, vous savez, en cherchant bien, une petite connaissance que théorique des exploits de Dieu dans le passé. Très théorique. Oui, alors ceux qui ont un peu de connaissances historiques, oui, dans le passé, c'est vrai que Sainte-Geneviève a libéré Paris des Attila et des Huns. Bon, de là à ce que le Seigneur refasse le truc, alors là, pas sûr du tout. Hein. Mais on a une petite connaissance très théorique du passé. C'est tout ce qu'il avait de positif. Il avait dû être à l'école du dimanche, ou plutôt l'école du Shabbat, quelquefois, comme ça, un petit vernis. Bon, c'était vraiment, vraiment pas ça. Hein. Et puis, la réaction de Dieu, alors là c'est fabuleux. L'Éternel se tourna vers lui. Si ce n'est pas de la grâce totale, il se tourne vers lui. Vous voyez la faveur de Dieu. Tu es à un niveau nul, je sais, oui, mais je m'occupe de toi. Il se tourne vers lui. Et c'est de la bienveillance, c'est de la faveur, c'est de la foi aussi, je dirais. Hein ? Et qu'est-ce que dit Dieu ? Alors là, ça aussi c'est formidable. Va avec cette force que tu as, délivre Israël des Madianites. Là, vous avez un Dieu qui est hyper positif. Positif. Et avec la répétition, hyper, très, très, très. Dieu est oui et amen. Il est force, il est salut. Et on voit déjà, délivre, sauve. C'est Yeshua, ça. Délivre, sauve. Donc, de nouveau, révélation d'un Dieu qui donne la force, qui veut délivrer, qui veut sauver, qui est avec son peuple. Alors, pauvre Gédéon. Et mauvaise réponse de Gédéon, de nouveau. Qu'est-ce qu'il nous fait, Gédéon ? Il regarde lui-même. Quand même, il a une visitation de l'ange de l'Éternel, c'est pas rien. Non, les yeux tournés vers lui. Et pas seulement vers lui, vers ses limites. Mitzrayim, comme dirait Thierry, les Mitzrayim, les limites, les faiblesses. Il ne regarde pas du tout au bon endroit. Il est totalement prisonnier de lui-même. Vraiment, mauvaise réponse. De nouveau, on met zéro. Hein ? L'Éternel, alors, cette patience de Dieu lui répond, je serai avec toi. Hein ? L'Éternel est avec toi, il recommence, répétition. C'est très, très pédagogique, la répétition, hein, les profs. Hein, répétition, sans se lasser, avec patience. Je serai avec toi. Et c'est pourquoi tu battras les Madianites. Il répète. On n'est pas abandonné. Hein. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il y a un petit mouvement de vie en Gédéon, quand même. Hein, quand même. Un petit mouvement de vie, et il va préparer une offrande. Il y a quelque chose. Quelque chose dans le tréfonds de Gédéon qui bouge. Quelque chose se met en action. Une offrande. Une offrande, pour nous, par exemple, ce serait... On se met en route dans la louange. Vous voyez ? Ou on se met en route dans une offrande financière. Quelque chose se met en route. Quelque chose de vivant se réveille en Gédéon et se met en mouvement. Et une relation s'établit. Alors là, la patience de Dieu quand même, parce que, je ne sais pas, vous allez chez quelqu'un, il vous dit, bouge pas, je vais chercher le chevreau dans le champ, te le préparer. Je pense qu'il faut des heures, hein, histoire de chercher le chevreau qui doit être encore en train de brouter près de la chèvre, plus le préparer, le tuer, l'apprêter, le faire cuire, enfin, des heures, quoi. Et j'attendrai ton retour. La disponibilité de Jésus, c'est incroyable, ça. J'attendrai ton retour. Et Gédéon, voilà, il fait ce qu'il peut, quoi. Hein. Mais un Jésus qui attend tranquillement, il attend le retour de notre Gédéon, occupé avec son chevreau. C'est... Je crois que Dieu veut nous toucher en disant, mais je suis tellement avec vous, avec nous. Il y a une disponibilité, une patience. C'est impressionnant. Et puis aussi une simplicité, vous voyez. Un peu comme les disciples d'Emmaüs avec Jésus. Voilà, prêts à recevoir cette offrande. Et quelque chose de très simple, très proche. Proximité, simplicité, disponibilité, bonté. Enfin, voilà, c'est extraordinaire, hein. Donc, alors là, vous connaissez, il y a une relation qui s'établit, ça y est, une relation s'établit, et Dieu répond à cette petite offrande, ce début de mise en marche de Gédéon, vous voyez, de l'encouragement de Dieu, feu. Ça, c'est extraordinaire. Parfois, on apporte une toute petite offrande avec ce qu'on peut, là. Il était certainement encore plein de craintes, plein de limites, plein de tout, mais Dieu répond, feu, présence de Dieu. Et non seulement le feu, mais une révélation puissante de Dieu, parce qu'après, là je vais un peu plus vite, mais j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, il réalise quand même, et il reconnaît, tu peux continuer la suite, révélation Adonai Shalom. Révélation, ça, c'est vraiment Adonai Shalom, c'est vraiment le double nom, Adonai Shalom. Et là je crois que ça nous parle très fort, parce que, est-ce que les circonstances étaient paisibles ? Pas du tout, pas du tout. Dieu se révèle comme le Dieu qui porte la paix. Et là, je fais référence au message de Pâques donné par Denis, hein, Denis sur la paix, alors qu'on est dans des circonstances très troublées. Et je crois vraiment qu'il y a une révélation que Dieu veut amener de la paix, Adonai Shalom, alors que tout va mal, les Madianites sont partout, hein, que nous-mêmes, on a peut-être encore plein de craintes, qu'on a plein de limites, tout ça, on n'est pas du tout... Là, il n'est pas du tout au top du niveau de la foi, du tout. Révélation de Adonai Shalom. Et cette révélation, elle est pour chacun de nous, qu'on ait la révélation de ce Dieu de paix. Je peux vous dire que ces dernières semaines, hein, moi, quand on rentre dans la maison de prière, c'est impressionnant ce manteau de paix qui vient. Hein, Lana, tu confirmes. Hein. Il y a un manteau de paix fort, fort. On sort de là, on est... Ouf, apaisé. Et je crois que Dieu veut se révéler à nous. C'est un temps où il se révèle à nous comme Adonai Shalom. Et Shalom, je rappelle, en hébreu, c'est beaucoup plus que paix. C'est bien-être, c'est complétude, c'est plénitude, c'est prospérité. C'est grand, quoi, le Shalom. Donc, à ce Gédéon qui était vraiment pas au niveau du tout, Dieu, dans sa grâce, se révèle comme le Dieu de paix. Adonai Shalom. Tu ne mourras pas. N'aie pas peur. Et on reconnaît les mêmes termes que Jésus emploie dans les tempêtes. Hein. N'aie pas peur, ayez foi en moi, n'ayez pas peur. Sans arrêt, n'ayez pas peur. Ça revient comme un leitmotiv. C'est le même Jésus. Dans un contexte extrêmement lourd et difficile, et je crois vraiment qu'on est dans ce temps, Dieu veut se révéler comme Adonai Shalom. Et qu'on soit imbibé de sa paix, à tel point qu'on soit des porteurs de paix, des diffuseurs de paix. Ça va, Marguerite ? partout où on va, des diffuseurs de sa paix. Tellement on a la révélation de Adonai Shalom. Il bâtit un autel, il adore le Dieu Adonai Shalom. Et je crois que selon les facettes de Dieu qu'on adore, eh bien on est transformé à son image. Hein, tel il est, tel nous sommes. On adore Adonai Shalom, eh bien on reçoit plénitude de paix et on devient des porteurs de paix. Et où on va ? La paix de Dieu. Moi, je rêve de... C'est pas encore, je ne suis pas encore Caroline, hein, mais je rêve de ces temps où tu rentres dans la salle de classe, manteau de paix. Je ne suis pas encore. Mais je me dis quand même, Seigneur, ce serait le top du top, peut-être que... Hein, enfin, on doit aspirer à ça, quoi. La paix de Dieu. Voilà. Et puis, donc, il adore, voilà. Ah, étape suivante. C'est ça qui est intéressant, les étapes. Verset 25-32. Maintenant qu'il a une belle révélation, que le feu de Dieu est descendu, est-ce que c'est la fin des choses ? On pourrait dire, ouais, génial, j'ai eu la révélation, le feu de l'Esprit est venu, formidable. Ah, c'est là que les choses sérieuses commencent. Ça me rappelle quand j'ai eu mon baptême de l'Esprit, c'est un baptême du Saint-Esprit, j'étais toute contente, remplie de feu. Et le Seigneur dit, bon, maintenant, on attaque les choses sérieuses. Et c'est là que ça a commencé à chauffer très fort. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs dans ma propre vie. Il a fallu que Gédéon se positionne par rapport aux idoles familiales, culturelles, de son environnement local. Il risquait sa peau quand même. Hein. On le voit dans le texte, il risquait sa peau. Et là, j'en profite, une petite digression. Hier, on commençait les 30 jours de prière pour les musulmans. Ils sont rentrés dans le ramadan hier. Et 30 jours de prière, et nous, on veut vraiment, si le Seigneur vous interpelle, en plus de Luc, prier pour les musulmans, parce que le Seigneur, d'une part, veut se révéler à eux. Et on veut aussi prier pour les musulmans convertis, parce qu'eux, ils savent ce que c'est que d'affronter l'environnement local et familial, y compris en France. Donc, confrontation, il risque sa peau quand même, confrontation avec les gens de sa famille. Remarquons au passage que sa famille était totalement syncrétiste. Ils avaient un nom hébreu, Joas, plus Baal, plus Astarté, le poteau d'Achéra, c'est Astarté, les idoles du coin, un syncrétisme total. Verset 27, on peut regarder, 27, voilà. Gédéon fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Avec cette petite directive qui concernait son environnement local, des choses qu'il pouvait quand même gérer, eh bien, il a obéi, fit ce que l'Éternel lui avait dit. Une petite obéissance, alors même qu'il n'était pas encore libéré de ses craintes. Il était même plein par crainte de sa famille, donc il avait encore de la crainte en lui. La crainte, ce n'est pas la foi. Hein. Mais il obéit, à sa petite mesure, il obéit. Voilà. Donc, ça c'est le premier niveau d'obéissance, nous positionner dans notre vie personnelle, familiale, et renoncer aux mensonges et aux idoles, dans la mesure où petit à petit le Seigneur nous montre. Et en France, on a la dose, y compris dans le monde chrétien. Religiosité, humanisme, matérialisme, occultisme, mammon, rationalisme, et voilà. Il y a de quoi faire. Donc, première étape, le Seigneur te montre une idole, ok, tu la bats, tu renonces, tout ça. Hein ? Gédéon remporte la victoire dans son propre environnement. Magnifique ! Là, on pourrait dire, c'est bon. Il a eu le feu, la révélation, la victoire dans son environnement. Est-ce que c'est bon ? Non ! C'est le début des plus gros problèmes. Regardez après ce qui se passe. Alors, on continue. Alors là, j'ai aimé ça. J'ai dit, waouh, ouais, c'est tout ce qui... Oh, verset 33. 33, voilà, donc tout ça. Il a vaincu Baal, tout ça. Il a fait son ménage. Et là, dans ma Bible, c'est tout Madian. La totale de la totale qui déferle. Les Madianites, les Amalécites, les nomades, ils se rassemblent. Vous vous rendez compte ? Il a une victoire, il a la révélation, tout ça. Et c'est là que c'est le déferlement total des puissances de ténèbres. Il faut le faire quand même. Hein. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'on a en France. Hein. On commence à être au large de pas mal de petites choses perso. Enfin, je me dis, après presque bientôt. Moi, je suis 39 ans de conversion, je trouve qu'au niveau perso, ça commence à être bien mis au large. Et c'est là que les gros problèmes au niveau national arrivent, y compris pour l'éducation chrétienne. Hein. Oh, les Madianites déferlent. Vous voulez des noms de Madianites ? Non. Maintenant, on ne dit plus romain, hein, parce qu'il y a Mitia, on ne dit plus romain, on dit Madianite. C'est bon, Huguette ? Madianite. Personne n'a une petite origine Madianite que je pourrais blesser au passage ? Non, ça va. Donc, on peut y aller. Madianite. Parce que romain, c'est embêtant, parce qu'il y a Mitia. Non, c'est les romains, non. Ce n'est pas des ennemis, on les aime, on les bénit. Madianite. Oublions Astérix, Obélix. Non, on aime les romains. Madianites. Madianites, c'est bon, on peut y aller. Donc les méchants, méchants, méchants Madianites, avec les méchants, méchants, méchants Amalécites, et puis tous les fils de l'Orient. Alors, voilà, j'ai listé des noms, mais... Ouais, peut-être. Terrorisme, occultisme, satanisme, humanisme, évolutionnisme, genre, antisémitisme, antichristianisme, bon, enfin, tout, voilà, toute la série. Tout ça. Et là, vous dites, oulala, commence à chauffer sérieusement. Donc, voyez ce que je veux dire, la souveraineté de Dieu, c'est pas du tout un problème que, quand on pense qu'on est un peu mieux, les problèmes extérieurs deviennent encore plus nombreux et plus complexes. Hein, moi, je trouve que c'est la pédagogie de Dieu. Vous allez voir là quand même, c'est la pédagogie. Réponse de Dieu. Et Gédéon, ô merveille des merveilles, est revêtu de l'Esprit d'Éternel. Verset 34. Et là, je crois vraiment, hein, ça, d'ailleurs, ça a été prophétisé, que dans ces temps de Shavuot de Pentecôte, là, il y a un revêtement et on sent. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui monte en nous. Hein, l'Esprit de Dieu qui nous saisit, qui nous harpazo en grec. Brum, il nous saisit, il nous propulse à des hauteurs supérieures. Pom. Et Josué. Alors, les visiteurs, vous êtes foutus parce que vous êtes à Josué aujourd'hui. Les membres de Josué, encore plus. On est condamnés à être saisis par l'Esprit de Dieu et propulsés à des niveaux. Ça monte. Et donc, l'Esprit revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et ça, c'est super, ça. Hein, si on a du corps, on pourrait penser que c'est la voix prophétique. Mais, attention, mais... Il n'est pas encore au bon niveau de foi. Il n'est pas encore aligné sur ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, tu délivres le pays de Madianites. Est-ce qu'il le dit, Gédéon ? Pas du tout. Il n'est pas encore aligné. Il n'est pas encore au bon niveau. Alors qu'il a vécu toutes ces étapes, alors qu'il a été revêtu de l'Esprit de Dieu, ce qui est quelque chose, il n'est pas encore aligné. Et là, waouh, verset 36-40, l'extraordinaire patience de Dieu. Il demande encore des signes, des confirmations, et une patience et une bonté de Dieu phénoménale. Et ça nous encourage, parce qu'on voit Dieu qui se met au niveau de Gédéon, en bon pédagogue qu'il est, pour l'amener plus loin. C'est vraiment le cœur du berger, ça. Au niveau, au pas de Gédéon, pour l'emmener plus loin. Et après, on passe au chapitre 7, voilà. C'est la fameuse étape de tri des hommes. Vous savez, ils sont des milliers, parce que quand même, Gédéon convoque, là, ils sont des milliers, et puis il y a le tri. Et on voit Gédéon, c'est tout simple ce qu'il fait. Il écoute, il applique. Il écoute, il pratique. Il écoute les directives de Dieu, très, très, très compréhensibles, très claires, et il obéit scrupuleusement, alors qu'il a encore des craintes, on le verra dans la suite, il a encore des craintes, le gars. Il n'est pas encore aligné, sa bouche n'a pas encore dit ce que Dieu disait. Vous voyez, il est vraiment pas encore au top niveau. Mais à son niveau, il obéit. Et... Attention les Français, il obéit sans forcément comprendre. Attention. Parce que franchement, son histoire de le Seigneur, la paix, pas la paix, tout ça, moi je dis pas, rationnellement, des soldats, vous voulez trier des soldats, vous faites passer des tests de soldats, je sais pas moi, maniement d'armes, agilité, entraînement physique, vous faites passer des tests. Mais son histoire de la paix comme les chiens, pas comme les chiens, c'est irrationnel, c'est illogique. Et là, le Seigneur nous attend, nous les Français, qu'on s'aligne, même si on ne comprend rien. Et ça me fait penser, la dernière soirée d'immersion, je suis allée pour demander la prière, et je suis arrivée, donc Vito n'est pas là, mais je dis, Vito, je ne comprends rien, c'est illogique ce qui m'arrive dans plusieurs domaines de ma vie, c'est illogique, et toute ma connaissance soi-disant de Dieu, je ne comprends pas. Et ça m'a rappelé France en feu, vous oubliez toute votre expérience, même spirituelle, du passé, page blanche, des choses inconnues. Donc les Français, il faut qu'on abandonne notre logique, même spirituelle, pseudo-spirituelle, parce que Dieu nous entraîne dans des choses bizarres. Vous avez un impôt à payer, il vous dit, va pêcher un poisson. C'est quoi la logique? Donc écoutez Dieu, faire ce qu'il dit. Donc il obéit, et puis Dieu répète, verset 7, il répète cet art de la répétition. « Je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux. Je vous délivre. » Il n'arrête pas de dire « Je vous délivre, je vous délivre, je vous délivre. » Et puis il nous dit ça pour nous en France. « Je vous délivre de vos ennemis, je vous délivre. J'ai un plan pour la France, j'ai une destinée pour la France, j'aime la France. » Et il nous le répète, on a du mal à s'aligner, mais il nous le répète. Hein. Et puis, après, verset 9, il recommence encore. Verset 9, Ah oui, tiens, moi, dans ma Bible, c'est au passé composé. Je l'ai livré. Enfin, bon, bref, je ne sais pas le temps exact en hébreu, mais en tout cas, il se peut qu'il y ait un changement de temps. Je l'ai livré en ton pouvoir. Mais en tout cas, il répète. Quel que soit le changement de temps, il répète, je le livre. Alors, il répète encore. Et il va s'employer à, cette fois-ci, déraciner ce qui reste de crainte en Gédéon. Parce qu'il y avait quand même toujours cette crainte. Hein. Verset 12, on a verset 12, donc il descend. Hein. Là, vraiment, vous avez la situation dans toute son horreur, j'allais dire. C'est extrêmement impressionnant, extrêmement intimidant. Madianites, Amalécites, nomades étaient répandus dans la vallée, donc ça nous parle des choses basses, hein, des choses de la chair, des choses du monde, répandus dans la vallée en aussi grand nombre qu'une nuée de sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables comme le sable au beau temps. Imaginez l'ampleur de l'armée de Madianites, c'est énorme. Et à côté, en face, vous avez 300 personnes, quoi. J'osais pas dire guerriers, 300 personnes. Enfin, moi, je trouve que ça reflète bien. On est 66 millions de Français. On a combien de chrétiens que le Seigneur est en train de mener au niveau Gédéon, j'en sais rien. Mais la proportion doit être à peu près dans la même eau. Donc, c'est très, très, très intimidant, très impressionnant. Et puis, là, Dieu, il porte le dernier coup de boutoir aux craintes, parce qu'il dit, si tu crains, en plus, il est... Écoute, il a dit, oui, avant il disait, si tu crains, tu vas avec ton serviteur et puis vous allez voir ce qui se passe en bas. Et il y va, et alors là, incroyable, parce que Dieu met dans la bouche d'un ennemi ce qu'il a déjà dit. Voilà, il dit aussi, cela t'encouragera, si tu as peur d'y aller. Vous voyez, Dieu, dans sa bonté, dans sa patience, tient compte de la peur de Gédéon, lui donne un moyen à s'adapter, enfin, à son niveau, pour quand même faire ce qu'il lui demande, mais en tenant compte de ce qui reste de crainte. Et après, donc tu pourrais passer à la suite, et après, ce qui est très très fort, c'est qu'il met dans la bouche de l'ennemi même ce qu'il a plein de fois répété à Gédéon, je te délivre de la main des Madianites. Hein? Voilà, l'homme de Dieu... Verset 14, son camarade répondit, c'est l'épée de Gédéon à qui Dieu donne la victoire sur Madian. Par la bouche d'un ennemi, il faut le faire. Dieu répète la même chose. Alors je me suis dit, j'ai quand même compté combien de fois il a répété notre Dieu. Combien de fois il a répété la même chose? Ben écoutez, moi j'ai compté 5 fois. Avec l'ennemi là, ça fait 5 fois en tout. 5 répétitions, tu délivres, tu battras, t'as 5 fois. Et 5 c'est de la grâce, c'est le chiffre de la grâce, hein. Et là, ô miracle, on y arrive quand même. Figurez-vous que Gédéon, alors là c'est un verset, ouf, enfin, verset 15, il s'écrit, tout le monde debout, l'Éternel vous donne la victoire. C'est la première fois qu'il s'aligne, imaginez. Ça y est, il est au bon niveau de foi. La première fois, depuis le juge 6, hein, avec toutes les étapes, qu'il dit la même chose que Dieu, alignement sur ce que dit Dieu. Et ça c'est le bon niveau, alignement. Et je crois que le Seigneur est en train de faire ça avec nous, hein, que notre bouche s'aligne sur ce que dit Dieu. On écoute Dieu, on entend, et on dit. Exactement, un total alignement. Au passage, remarquez quand même que les 300, ils obéissent aussi, hein, à ce que dit Gédéon. Pour l'Éternel, pour Gédéon. Et vous avez cette histoire, alors, je ne sais pas si vous remarquez quand même, donc il y a cette histoire de corps et de cruche. Vous remarquez quand même que ils ont normalement, vous avez deux mains, donc une main pour le corps, une main pour la cruche. Bah, et l'épée, alors elle est où? Il y a une épée quelque part? Elle est où l'épée? Vous avez remarqué? Il n'y a pas d'épée. Alors est-ce qu'elle est au flanc quelque part, en train dans le fourreau? Je ne sais pas moi. Il n'y a aucune épée. Les guerriers vont au combat sans épée. C'est incroyable ça, hein. Et en plus, ils disent épée. Enfin, épée. Moi, j'ai épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Moi, j'ai pas à vos épées, hein. J'ai épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ben, c'est quoi cette épée? Puisqu'elles n'en ont pas eux. Et ils ont les deux mains prises. Et on voit après, en fait, ils proclament ce qui se passe dans le camp de l'armée céleste. Et c'est l'armée céleste qui agit dans le camp, en bas, dans la vallée. Eux, ils proclament. Ils disent juste que Dieu fait, épée, et puis les ennemis s'entretuent. puis c'est sûr qu'il y avait plein d'anges qui devaient faire les tas de boulot dans les camps ennemis, vous voyez. En fait, il y a une obéissance, positionnement de chacun des 300. Ils font et disent ce que Gédéon leur dit, et c'est l'épée de l'Éternel lui-même, conformément à la proclamation des soldats de Gédéon, qui agit dans le camp ennemi. Et si vous remarquez, les 300, ils ne sont pas agités, ils ne sont pas tendus, ils ne sont pas stressés, ils sont juste positionnés, pas d'activisme, ils sont dans le repos, une action bien coordonnée. L'Éternel, ça me fait penser à Exode 14:14, hein, l'Éternel combattra pour vous, et vous demeurez tranquille. Et ça c'est super. Moi, je trouve que c'est, pour les temps à venir, génial. Adonai Shalom, le repos, la position, on dit juste ce que Dieu dit, on a notre cruche qui va se casser à un moment. Bon, la lumière, hein, ça, j'ai dit le phare, on n'y est pas encore, mais la lumière du phare, mais c'est sûr que là, la suite, ça va être la lumière du phare, hein, c'est évident. Donc là, c'était le top niveau. Et ça a été puissant, et ça a été une victoire extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, fort, c'est de voir tous les niveaux par lesquels est passé Gédéon. Alors, deux points encore. Qu'est-ce qui a amené Gédéon à cet alignement final sur la parole de Dieu? Eh bien, c'est une suite d'actes d'obéissance, de sa part, hein. Et parfois des actes d'obéissance illogiques et irrationnels. Mais une suite d'actes d'obéissance, chaque fois à sa portée. Donc, un principe important pour faire grandir la foi, c'est l'obéissance. Alors maintenant, je passe au lauréat de la classe de la foi. Parce que dans les évangiles, il y a un lauréat, prix d'excellence. C'est qui? Comment? Non, je parlais dans... je vais préciser, dans les évangiles. Bravo Caroline, le centurion romain. Il a eu le prix d'excellence. Jésus a dit, était dans l'étonnement. Alors je crois qu'il y a deux fois où il dit ce mot étonnement, admiration, enfin étonnement plutôt. Une fois dans le sens positif pour le centurionnier. Et une fois dans le sens négatif, parce qu'on dit aussi le même mot, il s'étonna de leur incrédulité. Voilà, mais là c'est dans le sens positif. Il a dit, jamais je n'ai trouvé en Israël une aussi grande foi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le centurion romain? Et il y a quelque chose d'assez fort. Pourquoi il a lauréat, Matthieu 8, 5, 13. Alors peut-être juste rapidement, on ne va pas prendre toute l'histoire du centenier. Matthieu 8, 5, 13, tu peux prendre. Parce que comme d'habitude, c'est très mal traduit. Je crois qu'il faut vraiment prier pour des traductions fidèles parce qu'on se fait voler énormément de vérité par des mauvaises traductions ou des traductions incomplètes. Énormément. Et vous avez un verset. Alors, etc. Vous continuez. C'est après. Il y a un verset, normalement, il y a un mot précis. Continue, la suite. En tout cas, il y a un mot précis où le centurion répond, oui, Seigneur, tata, continue. Il dit, moi aussi, je suis soumis à des supérieurs. Et dans les traductions, souvent, on omet le « aussi ». Alors, ceux qui lisent le fabuleux livre de Tom Loomer, Cendrillon et ses sœurs, il y a tout un chapitre où il parle de ça, de la foi. Et il appuie sur ce « aussi ». Moi aussi. Ça veut dire que le centurion, il avait tout compris. Vous voyez, il dit moi, « moi-même ». Bah oui, voilà, la traduction s'est loupée. Désolé, David, mais là, c'est pas bon. « Moi-même aussi, je ne suis qu'un officier ». Alors, implicitement, « aussi », ça veut dire « comme toi, Jésus ». Je suis soumis à des autorités supérieures. Il y a tout un système d'autorité. Donc pourquoi le centurion avait ce niveau excellent de foi? Parce qu'il était dans un niveau excellent d'obéissance. Il avait compris tout le principe d'autorité et de soumission. Donc il savait comment ça marchait. Il disait, si Jésus fait de tels actes de puissance, c'est que forcément il a l'autorité. Et s'il a l'autorité, il est aussi soumis à une autorité. Enfin, il avait tout compris. Et donc, franchement, cette histoire d'obéissance, d'autorité et de foi, ça nous met énormément en question, nous les parents, alors désolé pour les mamans, c'est la fête des mères, mais les parents et les enseignants, ça nous met énormément en question, dans quelle mesure on enseigne à nos enfants la discipline et l'obéissance. Parce que si l'incrédulité, la désobéissance produit l'incrédulité, l'obéissance nourrit la foi. Et là, je crois qu'il y a une interpellation majeure pour les enseignants comme les parents, l'obéissance. Comment, et attention, et l'obéissance parfois même, je ne dis peut-être pas tout le temps, mais parfois, sans comprendre. parce que sinon on va avoir une bande de rebelles qui n'auront pas de foi. Et c'est dit aussi dans Hébreux 4, on voit très clairement dans Hébreux 4, vous voyez, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. C'est les fameux Israélites qui ont désobéi et en suivant le même exemple de désobéissance, ils ont désobéi, ils ont été incrédules par rapport au pays promis, mais ils ont désobéi. Donc c'est une réflexion majeure, hein, rapport entre obéissance et foi. Et puis alors une deuxième chose, je ne sais pas si où j'en suis dans le temps, un tout petit peu de temps encore ou pas. Oui, 5 minutes. Alors il y a aussi une extraordinaire révélation, parce que là vous allez me dire, les 300 ils ont obéi sans discuter à Gédéon. Mais de Gédéon, de qui il tirait toutes ses directives, sa stratégie, tout ça? De qui il tirait ça? De qui il tirait ça? Voilà, c'est-à-dire de Jésus. Et là, nous avons besoin, c'est vraiment crucial, et Asher Intrater, je le dis pour Thierry, hein, Asher Intrater appuie fortement là-dessus, c'est un messianique, un docteur messianique, un docteur apôtre messianique, il appuie fortement là-dessus, nous avons absolument besoin, actuellement, de la révélation de Jésus comme chef des armées célestes, Adonai Tsebaot. Alors, le Jésus des évangiles, oui, bien sûr, le Jésus bien-aimé du Cantique des Cantiques, bien sûr, évidemment, mais tout ça, ça doit rester, hein, évidemment. Mais le Jésus, chef des armées célestes, ça, c'est quelque chose. Et on en a besoin actuellement. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit souvent... alors, il y a un passage où on voit Jésus, donc c'est, vous savez, le fameux chef de l'armée d'Éternel qui rencontre Josué, justement, et Josué qui dit « T'es pour nous, t'es contre nous, voilà. » Non, je suis le chef de l'armée d'Éternel, j'arrive maintenant. Alors nous, Josué, hein, on doit être spécialement interpellé par cette rencontre, et c'est le chef de l'armée d'Éternel. Donc là, on a le chef, on ne voit pas l'armée. Après, Élisée, vous vous rappelez cette histoire, ils sont plein d'ennemis, Élisée dit « Écoute, mon serviteur, il est transi de peur, ouvre ses yeux, qu'il voit un petit peu ce qui se passe, et on voit les chars d'Éternel par multitude. » D'ailleurs, ça me fait penser que Béatrice, hein, dans ton dessin, tu as vu plein d'ailes d'anges. Hein. Moi, je me dis « Waouh, Béatrice, elle a tout vu, elle a vu les anges de l'Éternel et l'immense armée de l'Éternel. » Donc, on voit l'armée. Où est-ce qu'on voit et le chef de l'armée et l'armée ensemble? Où est-ce qu'on le voit ensemble? Hein? Très bonne réponse. Très bonne réponse, Huguette. Apocalypse 19. On le voit ensemble. Il est le fidèle, le véritable, et toutes ses armées le suivent, vêtues de fin lin, donc l'armée céleste, mais aussi complètement alignées avec les armées terrestres. Et au dernier tabernacle, c'est Alice qui avait une vision. Elle disait que le Seigneur est en train de connecter tous ses enfants à lui. Et quand cette connexion sera achevée, il va se passer des choses. Là, tu te rappelles, Aude? Ouais. Connexion. Parce que, alors la connexion, ça veut dire quoi? Donc on a vraiment besoin de cette révélation de Jésus, mais pas seulement de la révélation de Jésus à Adonai Tsebaot. Là, il y aurait beaucoup à dire sur Jésus, chef des armées célestes, mais c'est très impressionnant et c'est très motivant pour la foi. Hein. Mais, où est-ce qu'on tourne les yeux? À quoi on regarde? Et là, j'ai beaucoup aimé le chant de Alana, « Fixer les yeux sur toi ». Et là, de nouveau, alors désolé, mais c'est mon petit coup d'indignation, je dirais, pas de colère, mais d'indignation. Les traductions. Pourquoi Hébreux 12 a cité Denis? Alors, pour info, Denis, il a parlé de la foi dans son introduction, il ne savait pas du tout la thématique. Hein. Faut le faire. Je crois que vraiment le Saint-Esprit veut enfoncer le clou. Très mauvaise traduction. Alors, courons avec persévérance la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus. Vous connaissez tous cette traduction, fixant les yeux sur Jésus. Comme si, naturellement, on court les courses de la foi, fixant. Désolé, c'est une mauvaise traduction. Le vrai terme grec, c'est aphorontes. Détournons nos regards d'autres objets et les fixer exclusivement sur un seul. Voilà ce que dit le grec. On détourne, parce que naturellement, on tournerait nos regards ailleurs, comprenez, dans la course de la foi. Naturellement, on les tourne ailleurs, et il faut les détourner, c'est un acte de volonté, on détourne, pour les fixer exclusivement sur Jésus. Celui qui commence et marche à la tête, en plus, le chef de la foi, aussi, celui, en grec, c'est celui qui commence, qui marche à la tête. Donc cette notion aussi de Adonai Tsebaot, hein, consommateur, celui qui mène la foi à la perfection. Donc, Jésus est celui qui conduit notre foi à son accomplissement. Mais ça veut dire renoncer à tourner les yeux vers ce qui naturellement attire nos regards, c'est-à-dire tout le visible, les séductions de ce visible. Et là, je ramène au message de Pierre Daniel Martin du 11 mai, jeudi soir, Il n'est pas en ligne. Hein. Mais il y a vraiment, vraiment appuyé. On doit regarder à l'invisible, au Hébreux 11, les héros de la foi. Gédéon fait d'ailleurs fait partie des héros de la foi de Hébreux 11. On doit regarder à l'invisible et pas au visible, qui voudrait fasciner nos regards comme le python, là, ou comme le boa. C'est Mowgli, hein. Je vais te ficeler comme un saucisson. Parce qu'on regarde fixement au visible et aux choses qui nous fascinent, dans, y compris dans le monde des images et du virtuel. Donc, l'invisible, on doit détourner nos yeux de nos problèmes, voilà. Détourner nos yeux du brouhaha du monde, de l'agitation du monde, détourner nos yeux, enfin, oui, il y a plein de choses, hein. Et plus subtilement, là, je le rajoute quand même, plus subtilement, de notre ministère, de notre position dans l'Église, de l'attente des hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus subtil, ça, parce que c'est un petit vernis spirituel, mais en fait, c'est regarder à Jésus, voilà. Et voilà. Et Jésus conduit, donc fixer nos yeux sur l'invisible et adorer. Ah oui, je termine avec ça. Comment Dieu se révèle à Laodicée, cette église un peu, hein, voyez ce que je veux dire, qui manquait de vision, qui manquait de foi aussi. Il se révèle comme l'Amen. Voilà ce que dit l'Amen. Et Amen, il faudra presque un message pour ça. Amen, hein, en hébreu, c'est le fidèle. Enfin, c'est, ça parle de la fidélité de Dieu, de la véracité de Dieu. Il est le oui et l'Amen. On reçoit un royaume inébranlable, le oui et l'amen. Voilà, voilà. Donc, j'arrête là. Et peut-être qu'on finit juste par en prier. Oui. Alors, désolé, mais c'est... Par contre, le Seigneur est très pratique. Donc, je pense que nous tous ici, soit on est dedans, soit on va y passer, mais on a des exercices pratiques de foi. Exercices pratiques. Plusieurs parmi nous, on a des défis pratiques, très pratiques de foi. C'est-à-dire, on dit... Tu as confiance en moi, là, ou tu as peur? Ou tu dis quoi par rapport à ce problème? Et, ah oui, donc Denis, comme je dis, ne savait pas du tout de quoi j'allais parler. Il a parlé de cette montagne, il fallait de parler à la montagne. Et juste le verset avant, qui n'a pas été projeté, Jésus dit, ayez, alors pareil, très mauvaise traduction, ayez foi en Dieu. Non, vous rayez ça, c'est mauvaise traduction. Ekete, pistine, théou, en grec, ayez la foi de Dieu. Ça change tout. Ça change tout, c'est beaucoup plus puissant. Ayez foi, ça veut dire nous, on est là, en Dieu, là. La foi de Dieu, il est en nous, il nous donne sa propre foi. Il a eu foi en Gédéon. Et on peut recevoir sa foi même. C'est par la foi de Dieu en nous qu'on peut dire aux montagnes, voilà, voilà, sur parole de Dieu, hein, on ne dit pas ça n'importe comment. Il y a quelqu'un dans le bouquin de Tom Bloomer, il explique que quelqu'un a dit, « Oh, je me sens plein de foi, donc je vais marcher sur l'eau. » Il est allé voir la piscine de l'hôtel où elle était, pour voir s'il pouvait marcher sur l'eau. Désolé, ça n'a pas marché du tout. Et le Seigneur lui a dit, « Mais je t'ai rien dit, je t'ai pas dit, moi, que tu ailles marcher sur l'eau. » Donc, parole de Dieu, obéissance, oui, mais pas juste la foi. Vous voyez, ça, c'est tenter Dieu, c'est pas du tout pareil, hein, c'est une caricature de la foi, voilà. Merci Seigneur parce que tu veux chacun de nous nous propulser, nous amener avec cette patience extraordinaire de berger. Tu veux nous amener à des niveaux de foi supérieurs parce que tu sais que derrière il y a le salut de tout un pays. Il y a le salut de la France, il y a l'avenir, la destinée, il y a des nations aussi qui attendent. Il y a quelque chose de tellement, tellement grand, mais tu es un Dieu extraordinaire, rempli de grâce, d'amour, de patience, de bonté. Tu sais où chacun de nous on en est. Avec nos craintes, avec nos non-alignements, avec tout ce débroussaillage à faire dans nos vies. Et avec patience, tu t'occupes de chacun de nous, tu ne lâches personne et tu amènes chacun à ce niveau. Tu l'as fait pour Gédéon qui était un vrai cancre, et ben, tu peux le faire pour chacun de nous, ça c'est sûr. Et simplement, on te fait confiance, on décide de te faire confiance et donne-nous la grâce de t'obéir aux petits actes de foi progressifs que tu vas nous demander. Et certainement, tu vas le faire, Seigneur, on te donne le droit de le faire dans les prochains jours. Qu'on se rappelle, Saint-Esprit, rappelle-nous alors, oui, je passe un petit test de foi ou un grand test de foi, mais je veux réussir. Parce que par la foi, on te fait plaisir, on fait plaisir, on t'aime, Seigneur. On veut plaire à ton cœur. Et sans la foi, on ne peut pas te plaire. On veut t'honorer, on veut honorer le sacrifice énorme de Jésus. On veut te faire plaisir, on veut réjouir ton cœur. Alors, Seigneur, par amour aussi, on veut détourner nos yeux de nos circonstances, enfin, tout ce qui peut captiver nos regards et les fixer sur toi. Et ordonner, en obéissance à ta parole, à nos montagnes, de tomber dans la mer. On reçoit la foi même de Dieu et elle grandit en nous, Seigneur. Pour les actes énormes, comme a dit Denis en début, la foi, c'est la porte qui ouvre les miracles et le surnaturel, et les délivrances et les libérations d'un grand nombre. Merci dans ta fidélité, tu nous emmènes à ce niveau auquel on ne peut pas du tout accéder par nous-mêmes. Tu fais de nous ces phares qui seront non seulement inamovibles, inébranlables sur le rocher de ta parole, de tes promesses, mais aussi de puissantes lumières qui éclaireront en temps de grandes tempêtes, en temps de grandes ténèbres. Et beaucoup de navires et de vies ne se fracasseront pas parce que nous allons briller très fort, étant établis sur le fondement de la foi. Amen.